l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Carole, bonjour.
Bonjour.
Donc on est aujourd'hui à la fac Paul Sabatier à Toulouse et on est devant un jardin en agroécologie que tu mènes au sein de l'association Alter Ego. Alors c'est quoi ce jardin ?
Ce jardin, à la base, il a été pensé en fait pour accompagner des démarches agroécologiques, des démarches environnementales pour les étudiants de Paul Sabatier, aller vers davantage d'autonomie alimentaire. Mais l'idée, c'est également de pouvoir inclure en fait, les habitants de quartier, le personnel administratif et les enseignants autour d'activités agroécologiques autour du jardin et justement de pouvoir accompagner en fait, le mieux vivre ensemble et d'inclure en fait, le campus dans aussi la vie de quartier de Rangueil de façon générale.
Alors c'est quoi un jardin en agroécologie ?
Un jardin en agroécologie, c'est un jardin au naturel. Un jardin qui prend en compte en fait, toute la dimension liée à la biodiversité, aux plantes compagnes, aux insectes auxiliaires et de remettre la nature au centre et la nature dans un travail de coopération avec tous les éléments qui la composent, que ce soit les plantes, les insectes, les légumes et associés.
Alors l'agroécologie, on en a pas mal parlé quand même aujourd'hui. On voit un petit peu ce que c'est. En quoi ça se différencie de la permaculture, par exemple ?
Agroécologie et permaculture, de façon générale, on est quand même sur des pensées systémiques, c'est-à-dire des pensées en fait, qui englobent toutes sortes de domaines. Comment est-ce qu'on pense une éthique ? Mettons prendre soin de la terre, de l'environnement, le partage équitable des ressources. Et comment est-ce qu'on va l'appliquer en fait à toutes sortes de domaines, au jardin, à la construction, au domaine agricole de façon générale, mais également sur la santé, le bien-être, l'éducation. Et la petite nuance en fait que je ferais entre donc ça c'est pour une présentation globale de la permaculture et de l'agroécologie. La petite nuance que je donnerais, c'est que la permaculture, on peut l'imaginer en fait sur des petits écosystèmes, sur des petit fonctionnement de lieu de vie. L'agroécologie, on a peut-être davantage une dimension un peu politique. Et comment est-ce qu'on construit en fait des systèmes à grande échelle en fait, qui permettent de prendre en compte en fait, tous ces fondamentaux en termes d'éthique. Il y a plusieurs visions aussi de l'agroécologie. Personnellement, celle qui m'anime, c'est celle de Pierre Rabhi. Et j'ai fait... Enfin voilà, moi par exemple, je me suis formée à Terre Humanisme. Et justement, remettre la nature au centre, l'humain au cœur de nos systèmes et revaloriser également le monde paysan.
Alors ici, à Paul Sabatier, donc l'université de Toulouse, il y a un jardin qui est quand même assez grand. Mais bon, étant donné la grandeur du campus universitaire, il est relativement petit. Et qu'est-ce qu'on y fait ici ?
On cultive, on jardine, on apprend à travers des sessions justement de formation en agroécologie, en permaculture. On apprend à faire ensemble, à décider ensemble, à designer un petit peu le jardin ensemble. Et on expérimente également. On va essayer de voir en fait de quelle manière, mettons, la facélie, qui est un engrais vert, va venir amender le sol. Donc il y a toutes sortes de parcelles test qui nous permettent en fait d'expérimenter, de voir, tenter de comprendre.
Qui a designé ce jardin ? Qui c'est qui s'en occupe ?
Les habitants de quartier, les étudiants, mais surtout grâce à la démarche en fait, de Paul Sab d'y inclure des volontaires en service civique qui accompagnent quotidiennement en fait, les personnes qui viennent jardiner ensemble. C'est un travail de concert en fait, avec l'ensemble en fait, des personnes qui fréquentent ce jardin, y compris l'intervention en fait, que j'ai pu faire récemment sur comment mettre en place une parcelle de légumes perpétuels. Et donc par rapport à ça, à travers des animations coopératives et collectives, permettre aux personnes qui fréquentent ce jardin de s'approprier ce design-là, de le comprendre et de le mettre en place ensemble.
Finalement, c'est un des objectifs de cette association Alter Ego, de mener des jardins en agroécologie, mais surtout pour faire ensemble, pour mieux vivre ensemble. C'est vraiment, finalement, le jardin devient un outil au service du lien social, aussi de l'organisation collective. Comment on fait pour se mettre ensemble en action pour faire un jardin? Tu peux nous expliquer justement ces aspects-là?
Un petit détour en fait par l'historique de l'association. Il y a quelques années, je viens de l'éducation spécialisée et j'étais accompagnée par Christelle qui est des conseillers d'orientation. L'envie, c'était de décloisonner un petit peu tous les systèmes en fait, dans lesquels on est, c'est-à-dire les institutions sociales, médico-sociales que je fréquentais se trouvaient très souvent en fait, un peu mis à part en fait, de la vie de quartier dans lequel elles s'établissaient.
Comme par exemple un centre social ou
Voilà, des centres sociaux, des institutions qui accueillaient des enfants placés ou des institutions qui accompagnaient des personnes handicapées. Comme dans notre société de façon générale, il faut toujours quelqu'un, je pense, qui fasse le lien, qui permette d'accéder à l'autre vers un mieux vivre ensemble et de façon légère, enjouée, dans nos vies de façon générale, on manque de temps et on manque de temps aussi pour regarder de façon un peu plus approfondie ce qui se passe à côté de nous et notamment qui vit à côté de nous. Et ça, à travers justement une médiation autour du jardin. Le jardin qui amène des valeurs qui sont essentielles aussi dans nos sociétés de façon générale, amène peut-être cette nouvelle façon de voir l'autre à côté. En mettant les mains dans la terre ensemble, on apprend à se connaître différemment.
Et puis on fait quelque chose ensemble, parce qu'au final, notre société de consommation fait qu'on achète tout, mais on ne fait plus grand-chose.
Et le jardin, justement, permet, certes, c'est l'éloge de la lenteur, l'éloge de la patience, mais c'est aussi la satisfaction de pouvoir se réapproprier cet acte de se nourrir. Et se nourrir de ce qu'on trouve dans la terre et de ce qu'on peut faire pousser et aller vers, de cette manière-là, en fait, vers une certaine forme d'autonomie.
Du coup, on peut voir, il y a des aromatiques, donc du thym, de la menthe. Mais qu'est-ce que vous avez mis là pour ce printemps ?
Alors, il y a de la ciboule, il y a des poireaux. Là, on finit en fait tous les légumes d'hiver. Et on va attendre peut-être mai, mi-mai, en fait, les fameux saints de glace pour aller vers les légumes d'été, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les aubergines, tout ce qui est bien goûtu dans notre assiette et qu'on aime voir, en fait, qu'on aime cueillir au potager et qu'on aime voir dans notre assiette par la suite.
Alors, donc, de la production, là, on voit des petits framboisiers qui repoussent. Effectivement, il reste, c'est quoi ? C'est des oignons, de l'ail, enfin, voilà. Mais aussi des fleurs, parce qu'un jardin, c'est pas non plus que pour se nourrir.
Justement, l'intérêt en fait, de pouvoir mettre des fleurs dans un jardin, c'est de faire venir la biodiversité, donc les insectes pollinisateurs, qui comme leur nom le dit, vont venir polliniser en fait, par la suite les légumes et permettre en fait, à une fleur de devenir fruit, etc. etc. Donc on est, dans les jardins agroécologiques, on est loin des potagers en fait, de nos grands-parents où tout était en ligne et sur un même versant. Là, on va favoriser en fait, des cultures diverses, des légumes, fruits, fleurs, racines et feuilles, intercalés en ligne, mais en tout cas suffisamment rapprochés en fait, pour que s'exerce un compagnonnage en tout cas, entre tous, puisque la nature fonctionne de cette manière-là et on essaie de reproduire un petit peu ce qu'on voit dans la nature.
Et alors, donc, ce jardin-là, il est placé entre deux bâtiments de la fac de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Les étudiants, là, on les entend passer, on les voit passer, ils vont d'un cours à l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment ils participent à ce jardin, comment ils vont arriver à mettre peut-être la main à la terre?
Il y a des étudiants qui viennent de loin et qui viennent de la campagne, qui ont besoin de se réapproprier ce lien à la terre, qui trouvent aussi dans ce jardin-là le moyen en fait, d'être avec d'autres étudiants, d'être avec d'autres personnes, d'être un peu moins seul sur le campus de façon générale. On a des étudiants aussi qui font des recherches en agroéco ou qui ont des spécialisations en fait en biologie. Ça les intéresse pour le côté expérimentation. Les habitants de quartier y voient de façon générale un petit espace de verdure qui leur est proposé et un moyen de produire en fait une partie de leur alimentation. Ce sont vraiment, dans tous les jardins que j'ai pu accompagner, c'est toujours des motivations diverses et variées qui accompagnent le fait de venir au jardin. Le jardin, c'est être avec d'autres personnes, c'est se ressourcer parce qu'on a les mains dans la terre, parce que c'est un moment de pause. C'est aussi vouloir faire en sorte de cultiver sa propre alimentation et d'être fier de pouvoir manger pendant tout l'été, mettons, ces petits légumes qu'on peut même faire pousser sur son balcon si on le souhaite. Et voilà, faire ensemble et mieux être avec soi, avec les autres, avec la terre aussi. Donc il y a un petit peu tout ça dans le jardin de façon générale. Et je pense que même les étudiants qui participent pas aux activités liées à jardin, ne serait-ce que parce que ce jardin est sous leurs yeux, sont interpellés aussi par voilà, ce que peut être un jardin en agroéco, un jardin avec des fleurs, des légumes, avec toutes sortes de choses.
Donc sur le campus universitaire, il y a aussi deux bacs à compost, enfin même peut-être trois là, hein, c'est ça ?
C'est ça, qu'ont été accompagnés et installés par Humus et Associés, association sur Toulouse qui valorise les actions liées au compostage et notamment au compostage de proximité. Et donc, ces bacs à compost servent aussi bien aux déchets de cuisine et autres, mais aussi et surtout aux déchets verts, de façon générale. Comment valoriser nos ressources de façon générale et les réutiliser au jardin.
Est-ce qu'il y en a d'autres, des composteurs sur le campus, avec tous ces étudiants qui doivent vivre juste à côté ?
Alors, pas très loin, en fait, il y a le jardin Mini-M, qui se trouve à Rangueil également, et qui lui a été mis en place par le CROUS notamment, qui accueille lui aussi des habitants de quartier, et qui se trouve au pied en fait, de la cité universitaire de Rangueil. Et dans la vision globale que nous avons, nous, avec Alter Ego, c'est pouvoir installer en fait, ces petits havres de verdure et de gestes liés à l'environnement en fait, un petit peu partout dans la ville, disséminés. De faire d'accompagner en fait des lieux collectifs fréquentés par toutes sortes de personnes sur des sessions autour de la perma, de l'agroécologie, en partenariat avec des associations comme Humus, par exemple, pour le compost.
Alors justement, on va revenir un peu sur ces autres jardins, donc au sein de l'association Alter Ego. Alors Alter, c'est Al. Terre, égo, hein, en trois mots, juste pour dire, s'il y a des gens qui sont intéressés après pour aller voir un peu plus d'infos sur vous. Donc ces jardins en agroécologie que vous accompagnez, donc surtout sur la région toulousaine, il y en a plusieurs et vous avez vraiment un accent justement sur le social, sur vraiment la question de faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Alors tu peux nous raconter d'autres expériences de jardin que tu connais peut-être encore mieux que ce jardin qu'on a sous les yeux à la fac.
Une jolie expérience qu'a vécue Alter Ego, c'est l'installation d'un espace de coworking qui s'appelle les Imaginations Fertiles et qui donc accueillait les ateliers du Fab Lab, des coworkers multiples et variés, en fait designers ou autres, et lequel s'implantait dans le quartier Pas-de-Doigt à Toulouse. Suite à une rencontre entre Alter Ego et l'équipe de l'espace de coworking, l'envie, ça a été de profiter en fait, d'un espace de 2000 m² pour installer un jardin au cœur de Pas-de-Doigt.
Ça existe toujours parce que tu parles à l'imparfait.
Le lieu, l'espace de coworking s'apprête en fait, à bouger dans un autre lieu à Bellefontaine. Donc là, le jardin est un petit peu à l'arrêt. Ça fait quelques années maintenant. Mais c'est une expérience qui a été dynamisée pendant 4 ans. Et je crois qu'une des plus jolies réussites, ça a été d'avoir impliqué les habitants de quartier autour de ce projet-là, mais également les institutions sociales, notamment, je me souviens en fait de ce centre en fait, qui accueillait des femmes isolées de nationalité étrangère et africaine ou autre, et qui leur a proposé en fait, de venir s'inscrire dans des activités liées à ce jardin-là. Et des femmes d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest qui avaient dans leur pays en tout cas des habitudes autour de la culture vivrière et ne serait-ce que quand on leur a présenté le projet, présenté le jardin, on sentait que quelque chose s'allumait en fait chez ces personnes-là et donc on a pu mener en fait des sessions au jardin avec ces femmes-là, c'était l'association Espoir, avec habitants de quartier, avec ces personnes-là sans aucune forme de stigmatisation, puisqu'il était juste question de faire ensemble sans avoir à passer par des représentations sociales. Et voilà, et des moments assez touchants, c'est ces femmes qui apprennent en fait, à des habitants de quartier l'intérêt en fait, de planter telle ou telle plante en fait, à côté de telle autre. Et c'est pour des moments comme ça en fait, qu'Alter Ego a du sens, je trouve.
life lessons and be not by his. Pick up the remains and start again. To the eternal recovery, to the continuous recovery.
L'envie, c'est vraiment d'accompagner le mieux vivre ensemble et de permettre plusieurs cas de figure, en fait. Des personnes handicapées ou des enfants placés en rupture avec leur famille ou en rupture scolaire ou autre, en fait, sont souvent stigmatisés, exclus en fait d'un fonctionnement sociétal de façon générale. L'envie d'Alter Ego, c'est justement d'accompagner ces ruptures et de réinviter en fait ces personnes-là au sein d'un écosystème autour d'un jardin avec des habitants, de façon à permettre en fait une valorisation en fait de cette personne-là, mieux faire avec nos différences et justement valoriser ces différences-là qui nous permettent de construire en fait quelque chose de plus riche ensemble.
Alors comment on fait pour déjà attirer des publics particuliers, des publics qui peuvent être accompagnés par des acteurs sociaux?
Comment on fait pour attirer? On se fait connaître, on rencontre, on vient de ces milieux-là aussi qui nous permettent de savoir, même les régies de quartier ou autres en fait, qui nous permettent en fait d'avoir accès. Ce sont des métiers qui n'existent pas encore, je pense. Et donc, par rapport à ça, c'est donner l'idée, donner l'envie et accompagner le comment on travaille ensemble avec les institutions diverses et variées ou avec des régies de quartier, des comités de tout ordre. Et donc voilà, rencontrer encore une fois et faire ensemble.
Alors du coup, il y a des, comment dire, tu rencontres ces gens qui travaillent, donc pareil un peu, tu parlais de médiation à travers les jardins, donc des gens qui travaillent avec des publics fragiles, accompagnés, des publics handicapés, des enfants comme ça qui ont été placés. Tu rencontres les institutions et ils vous amènent ces publics particuliers sur le jardin ou c'est sur une base plus volontaire que ça se fait?
L'idée quand même, c'est que la personne soit partie prenante du projet. Donc, il n'est pas question en fait d'amener de force quelqu'un qui aura pas envie de jardiner. Une première prise de contact, une rencontre au niveau humain et avec un grand R. Et par la suite, comment on peut amener ça aussi dans la réflexion de la personne autour de son inscription au niveau social ou autre. Et donc, les choses se font vraiment très progressivement. L'idée, c'est d'établir des partenariats avec les institutions sociales, médico-sociales, de faire un travail de fond avec les éducateurs, avec les personnes en fait, qui encadrent au quotidien ces personnes-là, et qui encadrent, le mot est mal choisi, mais voilà, qui accompagnent ces personnes au quotidien. Et justement, comment on peut créer en fait, un projet avec toutes ces parties-là. Avec l'association Alter Ego, avec les éducateurs, avec et surtout la personne concernée. Et surtout, comment est-ce qu'on peut par la suite en fait, accompagner la globalité de l'inscription de la personne sur son environnement.
D'accord. Donc autour d'un jardin, il y a toutes ces personnes qui vont pouvoir venir. Et l'idée, quand il y a un jardin qui se met en place, c'est aussi de définir une organisation collective de devoir... parce que c'est pas évident, hein, on partage quand c'est ce genre de projet, on partage un terrain, ça peut faire quelques mètres carrés comme être beaucoup plus grand, mais si je plante quelque chose, est-ce que c'est moi qui vais récolter? Est-ce que tu as le droit d'arracher ce qui pousse? Enfin, c'est pas évident. Donc comment ça se passe finalement parce que c'est ça l'intérêt, c'est d'apprendre à travailler ensemble la terre. Comment ça se passe concrètement?
Pour ça, il y a toutes sortes d'outils qui existent. Pour qu'un projet fonctionne, il faut que chaque personne soit partie prenante du projet et puisse construire en fait ce projet avec les autres. Et donc par rapport à ça, sur fond de démarches participatives, donc d'outils en fait liés à l'éducation populaire ou autre, l'idée c'est de construire ensemble et d'aller ensemble en fait vers la création d'un potager. Ça veut dire se faire à l'idée que à partir du moment où Alter Ego accompagne un projet, la semaine d'après, le potager n'émergera pas. Il faudra attendre peut-être un mois et demi, 2 mois, 3 mois, le temps que toutes les personnes aient pu avoir le temps de construire ensemble en fait, l'idée générale de ce potager. De cette manière-là, le pérenniser en fait, et le faire fonctionner au mieux à la mesure des envies de chacun. On a quand même, j'accompagne également, enfin Alter Ego accompagne aussi toutes sortes de valeurs liées à l'environnement. Donc évidemment, les herbicides, les pesticides sont bannis, ça c'est une règle, un postulat de départ. Mais c'est aussi, à travers la création de ce potager, faire émerger la créativité de chacun. On a tous en nous une vision assez poétique, je pense, de ce que peut être un jardin. Et c'est aussi faire émerger cette vision-là, de façon à ce que ça soit aussi un lieu où on puisse exprimer en fait, nos idéaux, notre créativité, notre envie d'aller vers, en tout cas.
Alors, il y a aussi tout un aspect lié à l'alimentation, finalement, réapprendre peut-être le goût de ce que c'est qu'un vrai légume.
Le goût, le comment arrive ce légume-là. Et par la suite, sur certaines expériences au niveau des jardins, c'est comment le cuisiner, comment cuisiner ensemble, comment se familiariser avec de nouvelles façons de cuisiner les légumes, notamment en jouant un petit peu sur l'interculturalité à travers la cuisine. On a tous un rapport à l'alimentation qui est lié à notre culture de façon générale, et ce qu'on va pouvoir trouver à travers des cultures différentes, c'est aussi de nouvelles façons en fait de pouvoir consommer. Je parlais tout à l'heure justement de cet espace de coworking des imaginations fertiles, et est venu s'inscrire en fait dans cet espace de coworking un jardin accompagné par Alter Ego. Et des femmes isolées, notamment d'origine étrangère, ont pu s'inscrire sur le fait de créer ce potager ensemble. Et une des choses effectivement qui m'avait beaucoup touchée, c'est que quand j'ai présenté le projet en fait à ces personnes-là, on sentait en fait que le lien à leur pays d'origine en fait se réveillait, notamment en fait par le fait de cultiver à nouveau la terre. Et puisqu'elles avaient toutes connu en fait dans leur pays une forme de culture vivrière, et leur proposer en fait cette forme de ce lien à la terre à nouveau les remettait en fait dans quelque chose qui était profondément ancré en elles, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui vibrait à l'intérieur. Et ce qui était encore plus touchant, c'est quand elles ont pu apprendre en fait aux habitants de quartier de quelle manière faire pousser tel ou tel légume, comment le planter. Et là, de suite, en termes de représentation sociale, on attaque quelque chose qui est un peu différent et qui est et émouvant et aussi super intéressant en fait pour notre façon de vivre ensemble en fait.
Oui, voilà, parce qu'au final, ce que permet aussi le fait de partager un jardin ensemble avec les différents habitants d'un quartier, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dont on ne se doute pas, qu'en fait, ils ont des savoir-faire. Et du coup, se transmettre entre voisins, ça doit être quelque chose qui vraiment crée un lien. Et ça, c'est après pour la vie.
Exactement. Et on apprend à connaître les gens différemment. On n'a plus en fait une posture d'ouvrier, de cadre, de personne âgée ou de personne étrangère. On est tous égaux face à la terre de façon générale, et on apprend à se connaître différemment, puisque par exemple la personne en fait d'une catégorie sociale comme un ouvrier va pouvoir apprendre en fait au cadre, mettons, à cultiver des tomates ou lui apprendre comment planter. Et on apprend à se regarder différemment et à construire quelque chose de façon un peu différente aussi.
Alors du coup, Carole, toi, tu as appris toutes ces connaissances que tu transmets en agroécologie via un organisme qui s'appelle Terre et Humanisme, donc qui découle du grand poète jardinier, enfin pas jardinier, on va dire agriculteur, Pierre Rabhi. Aujourd'hui, tu es toujours membre de cette association Terre et Humanisme. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre comme message aux auditeurs sur ça?
Avec donc les animateurs en agroécologie formés par Terre et Humanisme, on doit être à peu près 150 en France. Premièrement, on a appris en fait à transmettre l'agroécologie à la mesure de ce qu'on était. Qu'on vienne du monde paysan, qu'on vienne de l'associatif, du monde éducatif comme moi. Et voilà, de faire avec ce qu'on est, avec un grand E majuscule. Et peut-être ce que j'avais envie de transmettre, c'est tous à notre manière, en fait, on transmet l'agroécologie. Et l'importance en fait de le faire en réseau, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il existe l'association en fait qui découle de Terre Humaniste, qui s'appelle Animateur pour la Terre et Humanisme (ATH), laquelle est en réseau pour mutualiser des outils pédagogiques, pour mutualiser des expériences, des façons de faire, et de cette manière-là en fait s'enrichir mutuellement l'un l'autre par rapport à nos envies mutuelles en fait de transmettre l'agroécologie chacun sur notre territoire. Au niveau national.
Donc si on veut apprendre en tant qu'habitant, citoyen, l'agroécologie, on peut passer via ce réseau Terre et Humanisme, essayer de trouver des gens comme toi qui ont été formés au Mat Beaulieu, où vit hein, Pierre Rabhi quand il n'est pas en voyage à droite à gauche. On peut contacter des gens qui, comme toi, ont fait cette formation?
Bien sûr, grâce notamment à l'association ATH, qui met en lien justement tous les animateurs en agroécologie sur le territoire et qui les met en lien également avec les collectivités, les entreprises qui auraient des besoins en fait sur des aménagements paysagers comestibles, sur de l'accompagnement au monde paysan, sur aussi des ateliers en agroécologie pour les habitants de quartier. On est tous différents, on a tous notre manière de transmettre l'agroécologie. L'envie, c'est d'accompagner le maximum de public en fait autour de ces pratiques qui nous permettent d'aller vers un monde qui nous convient davantage en fait au niveau environnemental et au niveau sociétal. Ouais.
Ah, ça veut dire, alors moi je retiens de ce que tu viens de dire, ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans les espaces verts des villes peuvent aussi mettre en place de l'agroécologie et finalement pourquoi pas, plutôt que de mettre des arbres qui ne font pas de fruits, mettre des fruitiers, etc. Donc passer par ce réseau de Terre et Humanisme pour apprendre.
Complètement. Et moi à titre personnel c'est aussi un de mes rêves, mais certains le pratiquent déjà, notamment dans la région parisienne, où des hôpitaux ont pu être végétalisés en aménagement paysager et comestible dans la région parisienne. Et je sais que c'est une collègue à moi en fait, qui a formé justement des équipes de paysagistes à la possibilité de réinventer l'univers de cet hôpital et de faire du beau et du bon. Et de déconstruire aussi des représentations liées aux adventices, qu'on appelle encore trop souvent les mauvaises herbes, etc., etc.
Comme c'est bientôt les municipales, c'est le temps d'aller voir nos élus, nos futurs élus, et de leur proposer d'inscrire dans leur programme, pourquoi pas, effectivement, de faire passer les espaces verts en espaces agroécologiques productifs et nourriciers.
Exactement. Réinviter la nature en ville et permettre aussi à chacun de s'approprier cet acte de se nourrir par ses propres moyens. Et pour ça, rien de mieux en fait que les équipes espaces verts et tout le foncier en fait dont disposent les villes de façon générale pour accompagner cette transition écologique certes, mais aussi une forme de transition alimentaire en fait qui est aujourd'hui nécessaire.
Merci Carole.
Merci à toi.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. That's the remember.